Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau voyage à travers le monde afin de revivre 7 jours d'événements grâce au reportage de la rédaction.
Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Un voyage qui nous conduira cette fois en Suisse, en Israël, en Iran, en Côte d'Ivoire par exemple. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la rédaction de la revue Esprit, revue dont le slogan est « Comprendre le monde qui vient ». Nous sommes donc faits pour nous entendre et c'est bien pour cette raison que nous sommes partenaires. Esprit qui consacre son numéro de juin à la fatigue, une épidémie de fatigue, c'est le titre de son dossier principal. Partons dans l'espace avant de commencer notre voyage terrestre en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon pour rejoindre Thomas Pesquet et ses collègues. Thomas Pesquet qui a effectué cette semaine une sortie afin de faire quelques réparations sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale Simon Rosé.
Une sortie en scaphandre dans le vide spatial avec la Terre pour décor, c'est le rêve de tous les astronautes. Mais c'est surtout beaucoup de travail. Il fallait installer cette fois un nouveau panneau solaire pour la Station Spatiale Internationale. Ceux dont elle dispose actuellement commencent à montrer des signes de fatigue. 6h30 de travail prévu pour Thomas Pesquet et Shane Kimbrough, engoncés dans leur volumineux scaphandre. À l'intérieur, le simple geste de fermer la main demande un effort similaire à celui de serrer une balle de tennis de toutes ses forces. Ça n'a donc pas été de tout repos et le spectacle était présent, comme lors de cette opération délicate où Thomas Pesquet, accroché par les pieds au bras robotique, devait manipuler le panneau solaire lourd de 350 kg. Malheureusement, un problème technique sur la combinaison de l'astronaute américain leur a fait perdre quelques dizaines de précieuses minutes. Plus de peur que de mal, tout est rentré dans l'ordre, mais les deux hommes n'ont pas eu le temps de compléter l'installation. Thomas Pesquet et Shane Kimbrough ont une autre sortie prévue ce dimanche. Initialement, ils devaient installer un second panneau solaire. Reste à voir si le programme va être modifié pour terminer la mise en place du premier.
Et notez aussi que la première mission habitée envoyée par la Chine vers sa station spatiale en construction a décollé jeudi avec 3 astronautes à bord. Bonjour Anne-Lorraine Bujon.
Bonjour.
Vous êtes directrice donc de la rédaction de la revue Esprit. C'est un grand plaisir de vous recevoir, comme nous le faisons chaque mois. C'est notre rendez-vous mensuel. Et là, nous allons parler essentiellement, pas seulement, de la fatigue, puisque le numéro d'Esprit de ce mois-ci titre sur l'épidémie de fatigue. On verra ce que vous entendez par là. Mais je voudrais que nous commencions, Anne-Lorraine, avec votre éditorial, le texte d'ouverture de ce numéro, qui est assez optimiste, qui s'intitule « Croire au lendemain ». On aimerait.
On aimerait croire au lendemain. C'est un édito un peu en forme de question, comme souvent avec nous. On voulait correspondre à ce moment un peu paradoxal dans lequel on se trouve, un moment de sortie de crise. On espère être dans un moment de sortie de crise et on se demande à quoi va ressembler le monde à partir de maintenant. Et on a voulu commenter en particulier les signes d'espoir qui venaient des États-Unis, avec le président Joe Biden, qui est une des meilleures surprises de cette période, puisque très loin du vieux monsieur un peu endormi que Donald Trump essayait de dépeindre.
Joe l'endormi.
On a au contraire un président qui est porteur d'une grande énergie, d'une grande ambition transformatrice, qui a annoncé un plan de relance extrêmement généreux, qui veut lancer les États-Unis à la conquête de nouvelles frontières. Voilà, de nouvelles frontières. On parlait de l'espace que Kennedy avait appelé la nouvelle frontière. Joe Biden insiste beaucoup sur la technologie et les enjeux technologiques. Mais en fait, il incite son pays à se remettre en marche, à aller de nouveau de l'avant et à imaginer le monde de demain. Alors, cet espoir, cette énergie, on a envie d'y croire. On a envie de croire au lendemain.
Oh que oui.
Et pourtant, on a été frappé aussi du point auquel on compare souvent Joe Biden au président Roosevelt, le président du New Deal, et on comprend pourquoi, parce que ce plan de relance de l'économie par la dépense et l'investissement dans la santé, dans l'éducation, c'est vraiment un programme très keynésien, très classique, un programme de démocrate classique, on pourrait dire, aux États-Unis. Mais on s'est interrogé pourquoi cette référence toujours au passé, en France aussi, pour imaginer la sortie de crise, on nous parle du programme du Conseil national de la résistance, les jours heureux. Et alors, pourquoi devoir toujours se référer au passé avec cette question quand même, on vit dans un monde très, très différent. Les enjeux du monde actuel, c'est sans doute le climat, la technologie, des enjeux très globaux, très transversaux. Et peut-être qu'on est à la recherche de réponses qui ne sont pas précisément celles qu'on a pu trouver dans les années 30 pour le New Deal. On a le sentiment qu'il nous manque quelque chose pour y croire tout à fait à ce lendemain.
Alors parlons d'esprit. La nouveauté, c'est que vous allez bientôt lancer des podcasts.
Voilà, c'est notre avenir à nous, c'est notre nouvelle frontière.
Et oui, je parlais des lendemains qui chantent.
La revue Esprit reste très attachée à ses numéros mensuels imprimés qui structurent vraiment le travail de la rédaction. Mais ces textes sont désormais accessibles sur un site internet avec toutes sortes de navigations croisées possibles. Et puis on a commencé aussi à mettre à disposition des internautes des formats vidéo, des formats audio. Et on a envie de faire plus, en particulier dans le domaine de l'audio et du podcast, comme... Je parle à la radio, j'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre de tout le plaisir qu'il y a à découvrir des idées portées par la voix de quelqu'un, aussi par la proximité, l'intimité, la temporalité qui est celle de l'audio. On trouve que dans le podcast, on peut trouver un plaisir qui ressemble à celui de la lecture. Et donc, on est déterminé à se lancer dans la production régulière de podcasts. Et on a lancé pour ce faire une campagne de crowdfunding sur la plateforme Ulule, que vos auditeurs connaissent peut-être, qui permet à des lecteurs, auditeurs intéressés de voir ce projet de podcast se concrétiser, de nous venir en aide par un soutien matériel. Donc voilà, si certains...
Je les incite, en tout cas ceux qui peuvent, à le faire en tout cas.
Un grand merci à ceux qui peuvent et qui nous signaleront de cette façon leur intérêt ou non pour ce nouveau format.
Sept jours dans le monde.
Alors, partons pour Genève, étape importante du voyage de Joe Biden. Encore lui, le président américain était en Europe. Joe Biden qui a rencontré mercredi son homologue russe, Vladimir Poutine. Quel est le résultat de cette rencontre importante? Réponse de Vincent Souriau, notre envoyé spécial en Suisse.
C'était une première rencontre, une prise de température. Personne ne s'attendait à des avancées fracassantes et il n'y en a pas eu. J'ai fait ce pour quoi j'étais venu, résume Joe Biden. J'ai plaidé pour les droits de l'homme et pour un ensemble de règles basiques sur lesquelles nous devons nous accorder. La Maison-Blanche a soulevé deux sujets qui fâchent. Le cas de l'opposant russe Alexei Navalny qui risque de mourir en prison et les cyberattaques attribuées par le renseignement américain à des groupes basés en Russie. Dans les deux cas, Vladimir Poutine ne s'est pas démonté. Navalny et son organisation ainsi cite à l'insurrection. Nous agissons dans le cadre de la loi, balaye le président russe. Quant à la cybersécurité, c'est vous les Américains qui commettez le plus d'attaques informatiques au monde. Cessez de nous accuser sans preuve. En résumé, ni gagnant ni perdant, une seule avancée concrète. Depuis trois mois, il n'y avait plus d'ambassadeur américain à Moscou ni d'ambassadeur russe à Washington. Les diplomates seront de retour à leur poste à très court terme.
Anne-Lorraine, vous le savez, cette rencontre a été précédée lundi d'un sommet de l'OTAN en présence toujours de Joe Biden et la Chine a été dans le collimateur à Bruxelles, Pierre Benazé.
L'Amérique est de retour, la diplomatie est de retour, les slogans de Joe Biden étaient exactement ce que voulaient entendre les 29 autres alliés. Ils se sont employés à donner des gages au président des États-Unis. Dans leur déclaration finale, ils ont en quelque sorte ajouté la Chine à la Russie comme adversaire de l'OTAN. Ils ont choisi de qualifier les attitudes et la politique internationale chinoise de défis systémiques pour l'OTAN, même si le terrain d'action de l'Alliance va déjà de la Bosnie jusqu'à l'Afghanistan, qui a, soit dit en passant, une frontière avec la Chine, il ne s'agit pas pour autant de l'étendre encore, selon le secrétaire général Jens Stoltenberg. Il répondait en cela au scepticisme exprimé la semaine dernière par Emmanuel Macron. Pour Jens Stoltenberg, la Chine menace des intérêts alliés sur leur territoire propre, par exemple sur le plan économique ou par le biais de cyberattaques, et c'est donc sur leur propre terrain que les 30 pays de l'OTAN doivent faire face à la Chine. Ce n'était cependant qu'un des axes de ce sommet qui a relancé un nouveau concept stratégique pour faire face aux défis de demain, le climat, l'espace, le cyberespace, de nombreuses priorités pour ce sommet des retrouvailles transatlantiques.
Et il vous faut savoir également que la police de Hong Kong a arrêté jeudi 5 responsables du journal pro-démocratie Apple Daily, dont son rédacteur en chef, lors de la seconde perquisition en moins d'un an de la salle de rédaction de ce quotidien dans le viseur donc des autorités. Anne-Lorraine, vous suivez particulièrement les affaires américaines, les présidents américains, vous êtes spécialiste des États-Unis. Un de nos auditeurs, Monza Freeman, qui nous écoute à Kampala, écrit ceci: pourquoi ne pas croire Poutine quand il parle d'attaques informatiques américaines contre la Russie? Que lui répondre?
Alors, je pense qu'il ne faut pas croire Poutine, parce que je pense que Poutine profère un très grand nombre de mensonges et que quand on se documente un peu, on s'en aperçoit. Cela dit, ce qui est vrai, c'est que les cyberattaques aujourd'hui se multiplient et la question du cyber devient une question éminemment stratégique. On a parlé de technologie tout à l'heure, donc il y a des cyberattaques qui viennent de la Russie, il y a des cyberattaques qui viennent de la Chine, il y a des cyberattaques qui viennent de l'Iran. Je suis tout à fait prête à croire qu'il y en a un certain nombre qui viennent des États-Unis aussi. Et on se souvient d'il y a quelques années l'émotion quand on avait découvert les programmes de surveillance généralisée de la NSA. Donc il ne s'agit pas de distribuer des bons et des mauvais points.
D'autant, Anne-Lorraine, qu'il n'y a pas que les États qui peuvent attaquer sur le
système informatique. Ah oui, il y a aussi des hackers pour des motifs politiques, oui, ou pour des motifs crapuleux. Il y a de tout. Donc voilà. Ce qui est certain, c'est que la question de la sécurité des réseaux est une grande question pour l'avenir. Et que dans ce contexte, je crois que le président Biden est venu rassurer ses alliés. C'est très important symboliquement, ce voyage d'abord. Il est venu rassurer ses alliés, réparer les dégâts causés par 4 ans d'administration chaotique de Donald Trump qui maltraitait les Européens à chaque fois qu'il le pouvait. Mais il faut pas se faire trop d'illusions. Il y aura aussi des éléments de continuité. Bon, Joe Biden revient à la politique, au discours internationaliste classique des États-Unis de défense des droits de l'homme et de la démocratie. Et je veux croire que c'est sincère. Il est aussi réaliste et pragmatique. Et là, on a bien vu qu'il a besoin du soutien de ses alliés européens dans sa politique chinoise. La Chine est véritablement l'obsession des États-Unis aujourd'hui. Et donc, il s'agit aussi pour le président Biden de venir prendre la température et de voir jusqu'où les alliés sont prêts à le suivre ou non dans la politique à l'égard de la Chine, qui, je crois, là aussi est prudente et pragmatique. C'est pas une politique de va-t-en-guerre, mais c'est le grand défi stratégique et c'est la grande préoccupation américaine aujourd'hui.
Alors, on a cru comprendre qu'il y avait un changement de ton avec Vladimir Poutine de la part de Joe Biden. C'est une apparence ou pas?
Non, bien sûr, la question de la Russie faisait partie des questions particulièrement désordonnées, chaotiques, préoccupantes sous la présidence Trump. Là aussi, je crois que le sommet Biden-Poutine était très important sur le plan symbolique. C'est vraiment de la politique des grandes puissances. Joe Biden, en accordant cette rencontre bilatérale, accorde à Vladimir Poutine une part de la reconnaissance internationale que celui-ci recherche, mais il a aussi dit ce qu'il fallait dire, redit qu'on souhaitait qu'Alexei Navalny ne périsse pas dans les geôles du Kremlin et que c'était très important. Donc je crois qu'il s'agissait de marquer un certain nombre de lignes rouges, de reprendre contact, de reprendre une diplomatie plus normale avec la Russie, mais aussi dans une certaine fermeté de ton de la part des États-Unis.
Alors il faut souligner un article de Marie Mindras dans ce numéro d'Esprit du mois de juin sur la Russie justement et sur ce qu'elle appelle le chantage à la guerre.
Alors oui, l'article a donc été écrit il y a quelques semaines. C'est le rythme de la revue mensuelle qui veut ça.
C'est ce qui fait votre charme.
Et donc bien avant cette rencontre. Mais c'est peut-être le moment justement où cette rencontre s'est décidée. Puisqu'il y a eu de nouveau un peu des bruits de bottes russes en Ukraine. Donc on a vu Vladimir Poutine exercer une certaine pression sur les Ukrainiens. Sans doute sans vraie volonté d'aller à la guerre, mais juste pour maintenir une pression, pour continuer d'éloigner l'Ukraine de l'Union européenne, pour faire passer un message de cette façon au président ukrainien Zelensky, mais surtout aux populations ukrainiennes et russes. Et ce que dit Marie Mindras, c'est qu'il s'agit largement pour l'occupant du Kremlin de détourner l'attention de la gestion du Covid qui a été absolument catastrophique en Russie, d'une situation de crise économique,
qui continue
de pauvreté,
à l'être à Moscou en tout
qui
cas,
qui progresse et qui a un réel mécontentement dans la population. Il y a aussi des élections législatives qui s'approchent à l'automne prochain. Donc tout ça tient un peu des manœuvres de diversion. Mais j'ai entendu un certain nombre d'experts dire aussi qu'il s'agissait de tester un petit peu le président Biden. Et de ce point de vue-là, Vladimir Poutine a eu ce qu'il cherchait, un peu de reconnaissance avec une rencontre, mais un président américain qui marque des lignes à ne pas franchir.
Anne-Lorraine, les Iraniens votaient hier pour élire leur président. Victoire annoncée, ce n'est pas une surprise. Victoire de l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi. Le résultat de ce scrutin est à suivre dans nos journaux. De façon générale, outre une indifférence pour cette élection, la crainte des Iraniens est de devoir subir un durcissement du régime à l'avenir. Envoyé spécial, Oriane Verdier.
Mostafa Tajzadeh est une figure des réformateurs. Il a passé 7 ans en prison après le soulèvement contre la réélection du président conservateur Mahmoud Ahmadinejad en 2009. Cette année, sa candidature à la présidentielle a été rejetée. Il est l'un des rares à refuser de se censurer, mais il craint un retour en force de la répression, notamment sur les nouveaux outils de la liberté d'expression.
Monsieur Raisi va tout faire pour fermer cet espace, il n'y a aucun doute. Ils vont interdire Instagram, Clubhouse, ils vont bloquer nos liens avec l'Internet mondial et établir ce qu'ils appellent l'Internet national afin de pouvoir tout contrôler. Mais certains doutent qu'ils réussissent à mener ce projet. Ils estiment que l'évolution de la technologie est plus rapide que leur volonté.
Mohamed Ali Abtahi, bras droit de l'ancien président réformateur Mohamed Khatami, a lui aussi été arrêté en 2009. Aujourd'hui encore, il est privé de passeport. Il espère qu'une fois président, Ebrahim Raisi s'assouplisse.
Il est possible qu'ils soient plus tolérants. Par exemple, ils étaient très opposés à l'accord sur le nucléaire pendant ces dernières années. Mais lors du dernier débat de la présidentielle, M. Raisi a affirmé qu'il soutenait l'accord sur le nucléaire. En fin de compte, quand ils acceptent une responsabilité, ils sont forcés de faire des concessions.
Parallèlement, Mohamed Ali Abtahi compte sur le courant réformiste pour profiter de cet éloignement forcé du pouvoir pour se reconstruire et se reconnecter avec la population.
C'était un premier test pour le nouveau gouvernement israélien, composé d'une coalition fragile pour le moins et dirigée par Naftali Bennett. Plus d'un millier de militants nationalistes et d'extrême droite ont défilé mardi à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville sainte. Reportage de Sami Borrelifa.
Drapeau israélien à la main, une vague bleue et blanche déferle sur la vieille ville. Accompagné de sa fille, Daniel est venu marquer son territoire. Chaque année, les Palestiniens vivent ce rassemblement comme une provocation. Peu importe, pour cette franco-israélienne, ils n'ont pas leur mot à dire.
Non, on est chez nous. On est chez nous, on les accepte parce qu'ils sont nés là, parce que pourquoi pas, parce que. Mais tant qu'ils bougent pas, tant qu'ils sont gentils, pas de problème. Mais les maîtres de maison, c'est nous. Et là, on est là pour le dire. On est chez nous.
Des chants, des danses sous les fenêtres des Palestiniens cloîtrés chez eux, impuissants. Mais Noam, 24 ans, tient à rassurer. Lui ne vient pas porter un message de haine.
Moi, à titre personnel, je ne viens pas provoquer. Moi, je viens montrer mon attachement à Jérusalem. Jérusalem, c'est une capitale qui est unifiée. On a un peuple qui ne provoque personne. Voilà, maintenant tout le reste c'est un débat géopolitique qui ne doit pas. Et évidemment que la paix est possible, elle est plus que possible, elle est nécessaire. Et il faut faire la paix. Il n'y a aucune provocation. Il n'y a aucune provocation. C'est des gens qui défient avec un drapeau. Et c'est des gens pacifiques qui ne demandent qu'à vivre en paix.
Pourtant, certains manifestants ont bien scandé « mort aux Arabes ». Pour le Premier ministre par alternance, Yair Lapid, ces gens sont une honte pour le peuple d'Israël.
Suite à d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon qui dirige la rédaction de la revue Esprit dont le numéro de juin est sorti avec en une la question de la fatigue, une épidémie de fatigue, on en parlera dans un instant. Mais je voudrais qu'on nous arrêtions un instant, Anne-Lorraine, sur l'article intéressant, vraiment très intéressant, de Denis Bochard qui s'intitule « La démocratie en question en Israël ».
Denis Bochard est un ancien diplomate, oui, à la retraite désormais, mais il a été ambassadeur de France, je crois bien, en Iran. En tout cas, il connaît très bien la région du Moyen-Orient. Et dans cet article qui a été écrit lui aussi avant les violences en fait auxquelles on a assisté dans la bande de Gaza et en Israël récemment, c'est une réflexion un peu au long cours sur l'évolution structurelle de la politique de l'État israélien. Et c'est une réflexion, je crois, très inquiète, où il souligne plusieurs tendances de fond. D'abord, une tendance à la droitisation et même à l'extrême droitisation, donc où on voit l'influence des partis de droite et d'extrême droite, et en particulier des partis nationaux religieux conservateurs, du conservatisme religieux. Leur influence grandit, et c'est ce qu'on a vu aussi dans ces épisodes de violence qui deviennent maintenant récurrents entre la population juive et la population arabe en Israël même, sans parler de ce qui se passe sur la bande de Gaza. Il parle aussi de l'instabilité démocratique, de la difficulté à faire des coalitions avec du cette multitude de petits partis, où on se retrouve avec des attelages parfois curieux au gouvernement. Et il l'a écrit au moment où on ne savait pas si Benjamin Netanyahou finirait par tomber. Donc là, oui, apparemment, la page Netanyahou se tourne. Mais c'est vrai qu'on est de nouveau face à un gouvernement étrangement composé et où en tout cas le poids de la droite et de l'extrême droite est très fort. Et Denis Bochard signale enfin que l'idée d'une solution à deux États recule, que tous la gauche travailliste et toutes les forces du camp de la paix sont plutôt en minorité aujourd'hui, et que au fur et à mesure que la solution à deux États cesse d'être crédible, la question qui se pose c'est comment vivre dans un seul État où il y a une population juive et il y a une population arabe, et que aujourd'hui il y a beaucoup de discrimination contre cette population arabe, et il pose cette question de fond. Israël pourra-t-elle rester un État juif avec des nationaux conservateurs qui appliquent la pression que l'on sait, et un État démocratique? Et il dit ça n'est pas du tout certain. Donc la question c'est vraiment, Israël saura-t-elle rester démocratique?
Vous souhaitiez parler aussi de la situation économique et politique au Liban, totalement bloquée, hein?
Voilà, parce que il nous arrive très peu de bonnes nouvelles du Moyen-Orient, finalement, entre la mascarade des élections en Syrie, ces violences en Israël et une situation au Liban qui se détériore. Donc là, je renvoie vos auditeurs à un très bon article que nous avons publié uniquement sur le site de la revue Esprit, qui est un long entretien que nous avons mené avec Joseph Baout, qui dirige un centre de relations internationales à l'université américaine de Beyrouth, et qui explique d'où vient cette crise ou ces crises emboîtées, enchâssées au Liban. Il explique la gravité de la situation, le risque de violence. La crise sociale étant profonde, la crise économique. Et là, on a vu vraiment au Liban, la question ces jours-ci devient de savoir comment les gens peuvent se nourrir. Donc c'est la question de l'existence même du Liban qui est posée, sans doute.
Une semaine d'actualité.
Et arrêtons-nous en France maintenant, Anne-Lorraine Bujon. Bas les masques donc, en tout cas bas les masques à l'extérieur depuis jeudi. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Jean Castex. Autre annonce, la fin du couvre-feu à 23h dès demain, soit 10 jours d'avance sur le calendrier officiellement fixé. La semaine a été également marquée par la suite du procès Big Malion, le procès du financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. L'ancien président a comparu mardi et les réquisitoires présentés jeudi. Un an de prison dont 6 mois ferme requis contre le président candidat. Les procureurs ont également demandé de 18 mois à 4 ans de prison avec sursis contre les 13 autres prévenus. Compte rendu d'audience signé Pierre-Olivier.
D'entrée de jeu, la voix lasse, le procureur Nicolas Baïto pose le problème. 14 personnes à juger avec presque autant de versions différentes, il y a donc forcément des mensonges. Pendant plus de 5 heures, dans un jeu de duettistes, les procureurs vont déconstruire point par point la défense des 14 prévenus. À Nicolas Sarkozy, qui assurait encore mardi ne pas avoir été mis au courant de l'envolée des dépenses de sa campagne, la procureure Vanessa Perret réserve sa plus belle flèche. Laconique, elle lance, le candidat est le seul responsable de son compte de campagne et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Elle s'étonne par ailleurs qu'un chef d'État habitué à signer des décrets impliquant la République n'ait pas eu conscience de l'engagement que représentait sa signature sur un compte de campagne. C'est abyssal, conclut-elle. Enfin, le ministère public requiert 3 ans de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour le directeur de la campagne, Jérôme Lavrieux, le seul à avoir reconnu la faute. Éric Césari, qui était alors directeur général des services de l'UMP, écope, lui, du réquisitoire le plus lourd, 4 ans de prison avec sursis.
À suivre dans nos journaux. Au terme d'une année perturbée par le Covid, plus de 500 000 candidats ont franchi jeudi matin les portes des lycées pour passer l'écrit de philo du bac, seule épreuve maintenue en série générale avec le grand oral. Les lycéens ont pu répondre à des questions comme « Discuter, est-ce renoncer à la violence ?» L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ou bien encore sommes-nous responsables de l'avenir? Laurence Théo a recueilli les premières impressions des lycéens au lycée Claude Bernard à Paris.
Elle se frotte les yeux comme pour reprendre pied après une épreuve de philosophie qui aura duré 4 heures. Elsa se dit rassurée car c'est la note de contrôle continu qui sera retenue si elle est meilleure que celle de l'épreuve écrite.
J'avais 9,5 de moyenne en contrôle continu, donc au moins je savais que je ne pouvais pas avoir en dessous, c'est déjà ça.
Quel est le sujet que vous avez choisi?
J'ai choisi le sujet numéro 1. J'ai oublié le sujet.
Discuter,
est-ce renoncer à la violence? J'ai relié ça au langage, puisque la discussion c'est le langage, j'ai relié ça à la liberté, parce que le choix de renoncer, c'est la liberté de choisir, bref.
Grand gabarit, voix de Stentor, Côme écrase un mégot du bout du pied. Il évoque le manque de préparation à l'épreuve.
C'est pas du tout la faute des professeurs, c'est la faute du Covid, le changement entre demi-groupe et classe hybride. Enfin, tout ça, ça a été un peu une galère. On était obligé de suivre des conférences de 2 heures avec notre professeur en visio. C'était pas foufou, quoi.
C'était pas foufou. Zoé, quant à elle, montre un visage apaisé. Elle a fait ses calculs et sait qu'elle a le bac en poche grâce au contrôle continu.
J'ai au-dessus de la moyenne à tous les trimestres, donc oui, j'ai mon bac, quoi.
Et pour les plus motivés, ils ont beau savoir qu'ils ont déjà décroché le baccalauréat, ils visent la mention.
Anne-Lorraine Bujon, voilà un sujet qui va vous intéresser maintenant. Comme en 18, titré mercredi le journal L'Équipe, après le match brillant de l'équipe de France de football face à l'Allemagne à Munich, même si c'est un Allemand qui a marqué contre son camp, Antoine Grenier.
Garder le cap et tenir son rang. Pour le 11 tricolore, ce choc d'entrée face à l'Allemagne devait permettre de se confronter à ce qui se fait de mieux dans une compétition comme l'Euro. Et après des matchs de préparation maîtrisés, les Bleus ont affiché une solidité défensive qui a plu à leur sélectionneur Didier Deschamps.
Je savais qu'ils étaient prêts, ils attendaient ça depuis un moment. On a fait tout ce qu'on pensait faire pour que l'ensemble du groupe soit prêt aujourd'hui. Et ça a été le cas. Et heureusement, parce que face à un tel adversaire, si on est un peu en dessous, ben, je vous dirai pas la même chose après le match.
Mbappé et Benzema, buteurs contrariés dans cette rencontre, chacun de leurs buts étant refusé pour hors-jeu. Adrien Rabiot, tout près d'inscrire son premier but en équipe de France. Si le poteau n'avait pas repoussé sa tentative, les Bleus se contentent du plus petit des écarts, mais la solidité et la solidarité affichées ont plu à l'homme du match, Paul Pogba.
On a l'habitude de ça, c'est les grandes compétitions, c'est là où on doit être présent, c'est là où on doit montrer encore et prouver le statut qu'on a. On reste humble dans le travail collectif, humble dans le travail technique, dans l'agressivité. On veut continuer comme ça.
Reste maintenant à confirmer samedi contre la Hongrie.
Hongrie-France, c'est cet après-midi. Anne-Lorraine, je ne vais pas vous demander si vous vous intéressez au football, mais je vais vous le demander quand même.
Je m'intéresse au football dans les grands moments d'émotion collective auxquels il est difficile de résister. Donc, on se souvient évidemment des dernières victoires de l'équipe de France, mais je suis pas du tout, je ne suis pas très connaisseuse à part ça.
Je suis sûr que vous auriez choisi à l'épreuve de philo du bac ce sujet, un des 3 sujets. Sommes-nous responsables de l'avenir?
Et je trouve que c'est 3 bons sujets, en fait. Si j'ai bien entendu la question de la communication démocratique, donc discussion violente, violence. La question, effectivement, sommes-nous responsables de l'avenir? Cette crise pandémique, c'est aussi comme une répétition pour nous rappeler que nous sommes dans une crise écologique majeure et nous demander comment est-ce qu'on compte la traiter. Enfin, et je crois que notamment c'est la jeune génération qui nous demande ce qu'on pense faire sur le sujet. Donc, avec le sentiment que peut-être, voilà, c'est nous qui sommes responsables et qu'il ne faut pas leur passer cette responsabilité. Et puis un sujet sur la science aussi, si j'ai bien entendu.
Une question sur l'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance?
Ah voilà, l'inconscient et la connaissance. Alors ça me rappelait comme ça vaguement notre numéro de mars, Science sans confiance, où on se demandait comment ces deux régimes, le régime de la croyance et le régime de la science, étaient peut-être deux façons différentes de réfléchir, d'exister, qui n'étaient pas aussi incompatibles que ce qu'on imagine parfois. Donc que des bonnes questions. Et tout à fait en lien avec l'actualité que ces jeunes viennent de traverser pendant un an.
Alors ces jeunes, et là ça me permet de faire une liaison avec votre dossier du mois, ces jeunes qui ont été victimes, parmi beaucoup d'autres, de ce que l'on appelle la fatigue. Et ce mot étant un mot assez large, un mot valise.
Voilà, fatigués. Nous sommes tous très fatigués. Mais fatigués comment? Fatigués de quoi? Fatigués pourquoi? C'est un ensemble de questions qu'on a voulu poser dans ce dossier de juin. Il a été beaucoup question de la fatigue pandémique, qui était plutôt la lassitude extrême des populations dans différents pays devant les confinements, les mesures sanitaires, le fait de devoir renoncer à tous ces projets. Mais en réalité, dans ce domaine comme dans d'autres, il semblerait que l'épidémie ait servi de révélateur et donc aussi de révélateur d'une fatigue qui lui préexistait. Alors on a fabriquer ce dossier, coordonner ce dossier, mon collègue Jonathan Chalier, notre rédacteur en chef adjoint, avec le sociologue Alain Ehrenberg, qui avait écrit il y a quelques années un livre très remarqué sur la fatigue d'être soi.
La fatigue d'être soi. Ouais.
La fatigue
une
d'être
expression
soi.
Qui est restée d'ailleurs, la fatigue d'être
voilà,
soi.
Voilà, qui était une réflexion plutôt sur le phénomène de la dépression et pourquoi la dépression envahit les sociétés contemporaines. Mais ici, il s'agissait à nouveau de demander ce que la fatigue nous dit de la société. Et la façon dont la société compte traiter de la fatigue, ce qu'elle compte en faire. Donc, ce sont des questions qu'on a posées à des historiens, à des sociologues. Donc, on a notamment mené un entretien avec Georges Vigarello, historien du corps, historien des usages, des pratiques, et qui vient de publier une grosse histoire de la fatigue. Donc, où il reprend l'histoire de la fatigue depuis le Moyen-Âge en montrant qu'elle a évolué d'une fatigue physique vers une fatigue intérieure. Une fatigue mentale et la question de la santé mentale, comme on l'appellerait aujourd'hui. Donc, il montre que l'histoire de la fatigue se fait en parallèle avec l'histoire d'une conquête de l'intériorité. Voilà. Au Moyen-Âge, la fatigue, c'était celle des voyageurs, des combattants et des religieux qui étaient dans le don de soi permanent. Et puis après, on passe à d'autres types de fatigue, la fatigue des ouvriers et puis progressivement, donc la fatigue intérieure, la fatigue mentale.
Accentuée par le fait que l'époque, en tout cas en Occident, est marquée par la question du sommeil, du mauvais sommeil, du sommeil perturbé.
Le sommeil perturbé, le sommeil parviendra-t-il à être réparateur? Mais on a d'autres auteurs comme Emmanuel Alloa, par exemple, philosophe, qui s'interroge sur cette... Alors d'abord, il parle d'expériences redoutables menées notamment par l'armée américaine pour voir combien de temps est-ce qu'on peut aider un homme, un être humain à vivre sans dormir. Mais ça a quelque chose de terrifiant. Il met ça en parallèle avec toutes les machines, les réseaux, Internet qui ne dort jamais, donc cet état de veille permanent dans lequel nous sommes aujourd'hui, où les choses ne s'arrêtent jamais, on est dans l'accélération totale tout le temps. Et lui, en fait, dit mais on continue de promouvoir un idéal de l'individu alerte, vigilant, concentré, en pleine possession de ses moyens. Et il a voulu retourner un peu la question pour demander, est-ce qu'il n'y a pas une puissance critique dans la fatigue? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à être fatigué? Qu'est-ce que la fatigue nous dit? Est-ce que c'est pas aussi une expérience esthétique, sensorielle particulière? On voit le monde différemment quand on est fatigué. Donc c'est une forme de résistance, une forme de contestation qu'il ne faut peut-être pas écarter d'emblée.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de traiter ce sujet qui est un vrai sujet, comme on dit, de société?
Alors, en fait, ça nous est venu en plusieurs étapes. On avait déjà évoqué la question de la fatigue démocratique à plusieurs reprises avec notre comité de rédaction. Le sentiment qu'on vivait dans des sociétés un peu épuisées, qui manquaient d'énergie. Qui ne croyaient plus à leurs propres idéaux. Et donc, c'était notre première idée, c'était la fatigue démocratique. Et puis là, quand même, avec l'épidémie, on était très fatigués à la rédaction de la revue.
Vous aussi.
L'esprit. Et on s'est dit que c'était peut-être le moment de s'arrêter sur ce phénomène, qu'on était peut-être un cas révélateur de ce qui arrivait à nos sociétés dans leur ensemble, et que c'était... paradoxalement, en sortie de crise sanitaire, on espère qu'on est en train d'en sortir, le moment de s'interroger sur cette grande fatigue qu'elle a révélée chez nous.
En tout cas, je vous rassure, vous êtes en forme.
On essaye.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique donc, merci pour vos messages. Je salue quelques auditeurs qui nous écoutent avec fidélité sur le continent africain. Un salut aujourd'hui à Yaa Baini à Bamako, à Lai Touré qui nous écoute à Dakar, fréquence 92 FM, à Alseni qui nous écoute lui à Labé en Guinée. Il nous écoute sur le 89.9, écrit-il. Bonjour à Nioaté au Togo, à Janvier à Abomey-Calavi au Bénin. Bonjour à Francis Izouba à Abuja au Nigeria, à Benjamin qui est auteur, écrivain à Bukavu en RDC et à Bertrand Victor à Yaoundé.
Une semaine d'actualité.
Et partons pour la Côte d'Ivoire, Anne-Laurent Bujon, avec une des images de l'actualité cette semaine, celle du retour de Laurent Gbagbo dans son pays après 10 ans d'absence et 3 mois après avoir été définitivement acquitté par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité. Reportage de Pierre Pinto.
16h15, le train d'atterrissage de l'Airbus siglé Eurowings frappe l'asphalte de la piste de l'aéroport d'Abidjan. Explosion de joie. Même si nombre de privilégiés venus assister à l'événement s'interrogent, est-ce le bon avion ? Ce n'est pas Brussels Airlines, commente un militant avant d'apercevoir le drapeau belge sur la carlingue. Puis, au bout de longues minutes, Laurent Gbagbo apparaît en haut du hall VIP. Ses partisans sont en extase.
Ouh, de joie, de joie, de joie, de joie, de joie. Plus qu'heureuse de revoir notre père, celui-là même que nous avons placé à la tête de notre pays.
Nous sommes tout heureux. Voilà, nous sommes ici pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Bien vrai que certains de nos camarades ont été empêchés, parce qu'il faut le dire, ils ont été gazés à la statue Akwaba. Voilà, donc nous sommes ici, nous avons bravé vents et marées. Vous venez accueillir le président Laurent Gbagbo. Voilà.
Puis Laurent Gbagbo descend. La démarche fatiguée, il monte dans une voiture qui l'attend sur le tarmac et avance au pas, au milieu de la foule, sur le parvis du pavillon présidentiel. Il n'en descend pas, baisse la vitre, salue de la main et le cortège s'élance vers Abidjan et ses milliers de partisans massés le long du boulevard qui traverse le sud de la ville.
Laurent Gbagbo s'est ensuite rendu dans son ancien quartier général de la campagne présidentielle de 2010, dans le nord d'Abidjan. Reportage cette fois de François Mazé.
Vous avez dit que Gbagbo viendra. Aujourd'hui, vous dites que Gbagbo est là.
Dans une salle bondée et surchauffée, Laurent Gbagbo apparaît. Le secrétaire général du FPI Gor, Asso Ahadou, vient de prendre la parole pour l'introduire. Il tend le micro à son ami et chef politique. Dehors, la foule massée autour du bâtiment écoute la retransmission grésillante au haut-parleur. Éprouvée par une longue journée, la voix est basse et lasse. Laurent Gbagbo ne s'embarrasse pas de déclarations politiques, ce sera pour plus tard, dit-il. Il a envie de partager sa joie, son émotion d'être de retour au pays, de remercier ses amis, de penser à sa mère disparue en 2015 et à son ancien ministre et complice Abdourahmane Sangaré, lui aussi décédé alors qu'il était en jugement à La Haye. Une prise de parole assez courte, un rapide salut au balcon et le massif service d'ordre du parti invite la foule à vider les lieux. Les invités présents depuis le midi, fourbus, s'exécutent rapidement. Les jeunes restent pour profiter jusqu'au bout de cette journée d'histoire dans leur pays.
Dans l'actualité sur le continent africain, notez aussi la victoire sans surprise du parti au pouvoir, le FLN, lors des élections législatives anticipées en Algérie, avec une abstention record dans un pays qui, on le sait, est dans une impasse politique sur fond de répression des opposants. Il y a un peu plus de 3 mois, le groupe d'experts des Nations Unies sur les mercenaires avait tiré la sonnette d'alarme, comme on dit, au sujet de graves violations des droits de l'homme imputables à des paramilitaires russes en Centrafrique, en dénonçant notamment des exécutions sommaires massives, des tortures et autres disparitions forcées. La Russie a réagi cette semaine en dénonçant des informations non vérifiées avant d'assurer que ses instructeurs, entre guillemets, n'étaient pas armés et ne prenaient pas part au combat. Une réaction qui se trouve dans une note envoyée à l'office du haut commissaire de l'ONU sur place. Anne-Lorraine, direction le Sénégal maintenant. Comment va évoluer le conflit larvé en Casamance, dans le sud du pays ? La région est confrontée depuis près de 40 ans à une guérilla incessante menée par le mouvement indépendantiste MFDC. Mais l'armée a donné un coup d'accélérateur à ses opérations militaires depuis les débuts de l'année en reprenant les positions historiques du mouvement près de la frontière avec la Guinée-Bissau. Objectif affiché, restaurer entièrement l'autorité de l'État. Reportage de notre correspondante Charlotte Hydrac.
Au milieu des pommiers cajou, Yaya Bodian est ému de revoir son ancien village de Bougnac, repris par l'armée.
Bougnac, c'est un village là où j'ai fait mes premiers pas à l'école. C'était donc les années 90. Là, ça m'a fait les larmes aux yeux, la chair de poule, de retrouver les terres que mes parents et moi-même avions abandonnées il y a 30 ans de cela.
L'armée sénégalaise s'est donné les moyens d'en finir avec l'outil militaire du MFDC, achat d'avions anti-guérilla en Corée du Sud, utilisation de drones d'observation, véhicules blindés résistants aux mines, coordination tactique avec le voisin bissau-guinéen. Depuis janvier, les positions MFDC sont tombées une à une le long de la frontière. Lieutenant-colonel Mathieu Dieugoïsen.
Et aujourd'hui, les conditions que vous voyez ici sont créées pour le retour des populations dans leur terroir.
Mais le retour à la vie normale ne sera pas si simple. La zone reste truffée de mines et des questions sont en suspens. Quelle sera la réaction des éléments MFDC aujourd'hui éparpillés dans la nature ? Quid des négociations avec la branche de Salif Sadio au nord de la Casamance ? La nouvelle donne sécuritaire permettra-t-elle de développer cette région enclavée ? Rendez-vous important, le lancement des travaux du grand projet de zone de transformation agro-industrielle, l'Agropole Sud, annoncé avant la fin de l'année.
Terminons ce tour du monde aujourd'hui en Afrique du Sud, Anne-Lorraine, avec une ruée vers les diamants dans la région du KwaZulu-Natal. Depuis quelques jours, des milliers de personnes affluent sur un terrain où le sol regorge de petits minéraux transparents. Leur composition n'a pas encore été étudiée, mais leur ressemblance avec des diamants suffit à attirer des mineurs illégaux. Correspondance de Romain Chanson à Johannesburg.
Le bruit des pioches et le murmure des mineurs ont envahi les environs de Ladysmith dans le KwaZulu-Natal. Sur les vidéos, on voit un sol constellé de petits trous creusés par des milliers de mineurs improvisés. Cet attroupement risque de propager le Covid-19, redoute Lennox Malabo, le porte-parole du Premier ministre de la province.
C'est très difficile d'y faire respecter les protocoles sanitaires contre le Covid. Vous savez, les gens arrivent de plusieurs endroits du pays. S'ils se mélangent comme ça, il y a un risque de large propagation du virus. Et pas seulement pour les mineurs, mais aussi pour leurs familles qui sont restées à la maison.
L'autre inquiétude pour les autorités, c'est de devoir briser les rêves de ces milliers de mineurs illégaux, explique Lennox Malabo.
Le Premier ministre de KwaZulu-Natal se fait du souci pour ces gens qui viennent dans la région avec l'espoir de devenir millionnaires grâce à cette ruée sur les diamants. En Afrique du Sud, tout ce qui est en rapport avec les minéraux est strictement encadré par la loi et propriété de l'État.
Cette histoire rappelle la ruée vers l'or de 2018 dans la même province. Jusqu'à 5000 mineurs avaient afflué sur un site où la roche était étrangement dorée, mais sans valeur.
suite d'une semaine d'actualité. Nous sommes toujours en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon. Nous allons terminer ce numéro d'une semaine d'actualité, Anne-Lorraine, avec la revue Esprit et son actualité. On ne rappellera jamais assez le fait que vous avez un site et que ce site est d'une richesse proverbial.
Notre site est très riche parce que les archives de la revue depuis 1932 ont été numérisées. Donc c'est vrai qu'il y a des trésors dans ces archives et qu'on a fait tout un travail pour qu'elles remontent plus facilement parce qu'on peut faire des recherches par auteur, parce qu'on peut faire des recherches par thème, parce qu'on peut faire des recherches par pays. Et ce qu'on essaye de faire dans l'éditorialisation de ce site, c'est de permettre une forme de dialogue entre ces textes plus anciens. Donc il y a des textes de philosophes, de penseurs, d'intellectuels, de spécialistes des relations internationales qui ont beaucoup compté. Il y a des textes d'Anna Arendt, il y a des textes d'Emmanuel Lévinas, voilà, pas à l'appel, mais il y en a. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir ce que ces textes anciens peuvent nous dire encore de notre monde aujourd'hui. Vous avez cité notre slogan « Comprendre le monde qui vient ». Et c'est vraiment d'essayer d'instaurer une discussion, un dialogue entre hier et aujourd'hui. Et c'est dans cet esprit, par exemple, qu'on construit notre infolettre, on essaye de parler français, notre infolettre hebdomadaire, le mot d'esprit que nous envoyons tous les vendredis soirs aux lecteurs qui souhaitent la recevoir. Et on part toujours d'une actualité de la semaine et on remonte dans nos archives pour voir ce qu'on a publié autrefois qui permet d'éclairer l'actualité. Alors cette semaine, par exemple, on a été tout à fait intéressé par le double avis du CCNE, le Comité Consultatif National, le National Consultatif d'Éthique, CCNE, non, c'est pas dans le bon sens. Enfin, le Comité d'Éthique, ça, oui. Voilà. Et le Défenseur des Droits, Claire Hédon, la Défenseur des Droits, en l'occurrence, sur le traitement des migrants en France, qui pose vraiment problème en matière de droits de l'homme, et de plus en plus. On assiste en ce moment, par exemple, à l'expulsion d'un grand nombre de réfugiés demandeurs d'asile tchétchènes depuis l'assassinat de Samuel Paty. On ne veut plus voir de tchétchènes en France, et donc on renvoie ces gens chez eux parfois au risque de leur vie. Donc le CCNE et le Défenseur des Droits s'émeuvent de la façon dont on traite les migrants en France. Est-ce parce qu'on entre en campagne électorale? Est-ce parce qu'on espère dissuader les migrants? En tout cas, ils dénoncent ces traitements inhumains. Et nous sommes du coup retournés chercher dans nos archives un très beau texte de Paul Ricoeur sur la condition d'étranger, où il réfléchit à l'exil. Et ça, ce sera notre infolettre du vendredi. Dans l'esprit de cette infolettre où on essaye de faire dialoguer hier et aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure de nos projets de podcast. On pense à différentes séries, trois séries, mais il y en a une qu'on aimerait construire de la même façon autour de nos archives, en invitant des auteurs proches de la revue aujourd'hui à choisir un texte dans nos archives et à le commenter en expliquant pourquoi ce texte a compté pour eux ou pourquoi ce texte a compté tout court dans l'histoire intellectuelle, dans la vie des idées. Et c'est ce genre de format qu'on aimerait faire vivre avec la voix de quelqu'un dans ces podcasts dont on voudrait lancer la production à compter de la rentrée prochaine, l'automne prochain, si on a réussi d'ici là à rassembler les fonds nécessaires. Et voilà, et donc je me permets de rappeler qu'on est en pleine campagne de crowdfunding, de financement participatif, il faut dire,
oui,
en français, sur la plateforme Ulule. On nous retrouve très facilement, Revue Esprit Ulule, et c'est possible de donner même un peu. Et ça nous aidera à mettre ce beau projet en chantier.
Je crois que le minimum, c'est 1 euro, hein, c'est ça ?
1 euro, voilà. Ouais.
Donc 1 euro, c'est déjà beaucoup.
Voilà, en échange aussi d'abonnements pour ceux que ça intéresse. Et encore une fois, pour nous, c'est une façon d'associer nos lecteurs à ce qui va se passer et de leur demander leur avis. Et donc, s'ils ont des suggestions aussi de thèmes, de choses qu'ils ont envie d'entendre, qu'ils ont envie de découvrir, notamment dans les archives de la revue Esprit, on sera très contents d'étudier la possibilité de le faire.
Merci Anne-Lorraine Bujon, directrice de la rédaction
Merci
de la revue Esprit. Comprendre le monde qui vient, une épidémie de fatigue, tel est son titre principal pour le numéro de juin. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idées et nous aurons rendez-vous avec un personnage, le journaliste Jean-François Kahn, le fondateur de l'événement du jeudi et de Marianne par exemple. Il vient de sortir le premier tome de ses souvenirs, lui qui prétend qu'il n'a pas de mémoire. Idées, demain dimanche à 15h10, temps universel, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, nouveau journal sur RFI. Thank you.
tout à l'heure sur RFI.